Alors, bonsoir à chacun et à chacune. Le thème qui nous occupe ce soir, donc, est la suite de cette série sur le disciple, d'après le livre de William MacDonald qui a été choisi comme support. Les thèmes que nous avons traités, juste pour rappel jusqu'à présent, être un disciple de Jésus-Christ, un enseignement radical, partie 1, un enseignement radical, deuxième partie, son avenir est assuré, il s'engage entièrement. Il ne marchande pas avec Dieu, il ne peut servir de maître, il vit dans le contentement et ce soir, il est agent de réconciliation. Et il restera dans cette série, il met Dieu à la première place. Donc le sujet de ce soir, agent de réconciliation. Donc juste une précision, c'est un agent de réconciliation entre l'homme pécheur et Dieu. On ne va pas parler de la réconciliation entre deux frères ou deux personnes qui ont des difficultés ensemble, mais c'est la réconciliation entre Dieu, enfin, entre les hommes et Dieu. Dans son livre, ce chapitre est nommé 10/10e de vision parce que l'auteur nous explique que pour avoir cette vue de réconciliation, cette vision de réconciliation, c'est comme si on allait chez l'oculiste et qu'on mettait, je sais pas pour ceux qui ont déjà été, on a un appareil sur lequel on peut glisser différents verres. Et l'oculiste va mettre ses verres les uns après les autres jusqu'à ce qu'on ait une vision parfaite. Et pour avoir une vision parfaite de ce travail de réconciliation, eh bien, il y a 7 points qu'il nomme. Je les prendrai peut-être un peu différemment de ce qu'il a été fait dans ce livre. Donc, dans les parties précédentes, il s'agit plus de l'enseignement et de la responsabilité du chrétien vis-à-vis de son témoignage, dans la gestion des biens que Dieu lui a confiés, ainsi que la manière de se comporter dans la vie de tous les jours. Ce soir, nous avons particulièrement la responsabilité d'annoncer clairement le message de la réconciliation. Ça veut dire que c'est un engagement par rapport à ceux qui nous entourent, non seulement un engagement, mais une responsabilité solennelle pour amener les âmes à Christ, en étant nommé de ce titre d'ambassadeur, titre prestigieux s'il en est. Nous lisons ce passage. Juste peut-être encore plusieurs versets seront cités. Je ne suis pas un spécialiste informatique, donc il n'y a pas de PowerPoint. Si vous voulez prendre un crayon et un bout de papier pour noter les versets, et puis certains versets, je les lirai dans la Bible, d'autres ils sont nommés sur mes papiers. Donc, nous lisons ce passage qui nous occupe ce soir dans 2 Corinthiens 5 et au verset 9. Pardon, à partir du verset 10. Car il faut, donc 2 Corinthiens 5, verset 10. Car il faut que nous soyons tous manifestés devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive les choses accomplies dans le corps selon ce qu'il aura fait, soit bien, soit mal. Connaissons donc combien le Seigneur doit être craint. Nous persuadons les hommes, mais nous avons été manifestés à Dieu, et j'espère aussi que nous avons été manifestés dans vos consciences. Nous ne nous recommandons pas de nouveau à vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier de nous, afin que vous ayez de quoi répondre à ceux qui se glorifient extérieurement et non pas du cœur. Car si nous sommes hors de nous-mêmes, c'est pour Dieu. Si nous sommes de sens rassis, c'est pour vous. Car l'amour du Christ nous étreint en ce que nous avons jugé ceci, que si un est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui pour eux est mort et a été ressuscité. En sorte que nous, désormais, nous ne connaissions personne selon la chair. Et si même nous avons connu Christ selon la chair, toutefois, maintenant, nous ne le connaissons pas. Pardon, nous ne le connaissons plus ainsi. En sorte que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses vieilles sont passées. Voici, toutes choses sont faites nouvelles et toutes sont du Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Savoir que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, ne leur imputant pas leurs fautes, et mettant en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ. Dieu, pour ainsi dire, exhortant par notre moyen, nous supplions pour Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait péché pour nous, afin que nous devinssions justice de Dieu en lui. Je traiterai ce sujet de la manière suivante. Il y aura plusieurs chapitres, le tribunal de Christ, la réalité de l'enfer, l'amour du Christ, nouvelle créature, réconciliation, agent de réconciliation et ambassadeur, le garant de la réconciliation, puis il y aura une petite conclusion. Le tribunal de Christ, pour les croyants, ce sera une parution non pour une condamnation, mais pour manifester de la manière dont nous avons vécu notre vie de foi. Hébreux 6, 10, on va juste le lire, Hébreux 6, verset 10. « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant servi les saints et les servant encore. » Donc, dans ce verset, il est mis en évidence ce que ces hommes ont fait pour les saints. Cela sera relevé au tribunal de Christ. Pour le bien, relevons que ce ne sont pas nos mérites qui seront exaltés, mais la grâce divine qui aura opéré en nous pour accomplir le bien. Dieu en réserve des récompenses pour ce qui aura été accompli à sa gloire. Quant au mal, ce sera la grande rétrospective de toutes nos fautes et manquements, mais sans condamnation, puisque le prix pour ces fautes a déjà été payé. Nous comprendrons alors mieux toute la grâce et la miséricorde de Dieu. Quant aux incrédules, ils comparaîtront tous, soit avant le règne de 1000 ans pour ceux qui vivront sur, pour ceux qui vivront sur la terre, et soit après le règne pour ceux qui sont morts dans leur péché. Donc, morts dans leur péché, c'est Jean 8, 22. Et on peut lire aussi dans Matthieu 25, les versets 31, 41 et 46. Matthieu 25, 31. « Or, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire et toutes les nations seront assemblées devant lui. » 41. Alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudit dans le feu éternel qui est préparé pour le diable et ses anges. » Et le verset 46, « Et ceux-ci s'en iront dans les tourments éternels et les justes dans la vie éternelle. » Donc on voit pour les méchants, pour ceux qui n'auront pas cru, l'issue sera la même, soit qu'ils soient déjà morts ou vivants, ils seront jetés dans le feu éternel. La réalité de l'enfer, et j'ai ajouté aussi, est de la colère de Dieu. Donc, dans ce verset, dans le verset 11, l'apôtre parle de connaissant combien le Seigneur doit être craint, nous persuadons les hommes. Il parle ici d'une crainte, donc de la crainte de la puissance de Dieu, mais pas une crainte où on a peur, mais une crainte de respect. Et aussi en il fait part aussi dans ce passage, ce n'est pas expressément dit, mais de parler de ce qui peut être réservé aux hommes qui ne se sont pas tournés vers Dieu. Et dans son livre, MacDonald spécifie bien que pour avoir cette révélation d'apporter la réconciliation, eh bien, il faut bien avoir devant les yeux ce qu'est l'enfer. C'est pourquoi, même si ce sont des versets qui sont difficiles, il est peut-être bien de temps en temps de souligner ces versets, également ceux de la colère de Dieu. On a l'habitude, quand on parle d'évangélisation, de parler de l'amour de Dieu, de tout ce qui a été fait pour nous, de sa grâce, de sa miséricorde, de son pardon. Mais il y a des réalités que l'on ne peut cacher et que l'on ne doit pas cacher. L'enfer n'est pas nommé dans la parole, il est parlé de Sheol ou de Géhenne souvent pour synonyme d'enfer. Donc en Hébreux 9, 27, il nous est dit, il est réservé aux hommes de mourir une fois et après cela le jugement. Donc il n'y a pas possibilité de revenir en arrière. Il est réservé aux hommes de mourir une fois et après cela le jugement. Et puis il n'y a pas trois positions. ou bien nous sommes au bénéfice de l'œuvre de Christ et nous sommes auprès de lui, ou on porte les conséquences de notre incrédulité et il n'y a pas de seconde chance. Nous allons lire deux versets qui nous parlent de cette colère de Dieu dans Jean 3:36. Donc Jean 3:36 est ce chapitre où il y a Jean 3:16 que l'on lit régulièrement, que cela soit au culte ou pour faire de l'évangile. Mais dans la fin de ce chapitre, au verset 36, il nous est dit « Qui croit au Fils à la vie éternelle, mais qui désobéit au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » La colère de Dieu demeure sur lui. Et puis un deuxième verset dans Hébreux 10, les versets 29 et 31. « D'une punition, combien plus sévère, pensez-vous, que sera jugé digne celui qui a foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui a estimé profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui a outragé l'Esprit de grâce. » Verset 31, « C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. » Il y a des termes qui sont sévères, hein, pensez. Donc, fouler aux pieds le Fils de Dieu, et puis mépriser, qui a outragé l'Esprit de grâce. Donc, la parole est solennelle. C'est vrai que si l'on prend, on aime prendre beaucoup les promesses de la parole et les versets qui nous parlent d'amour, eh bien, ces versets qui nous parlent de la colère de Dieu, de la sanction contre le pécheur, pour ceux qui se sont moqués de lui, de celui qui a donné son propre fils, ces versets sont solennels et sont à prendre à la lettre. On ne peut pas prendre la parole en ne prenant que les versets qui nous font plaisir, qui nous parlent d'amour, de pardon, de salut, de justification. On doit aussi prendre ceux qui parlent de cette colère de Dieu, de condamnation, de jugement éternel. En ce qui concerne l'enfer, eh bien, c'est très clair, nous allons lire quelques versets qui nous parlent de ce que c'est. Par contraste à ce qui concerne l'éternité pour le croyant, nous ne savons pas grand-chose. Ce que nous savons, c'est ce qu'il n'y aura pas. Nous lisons dans l'Apocalypse qu'il n'y aura ni deuil, ni cri, ni peine. Nous savons ce qu'il n'y aura pas, mais nous ne savons pas ce que ce sera, comment ce sera. Par contre, pour l'enfer, nous avons une description bien détaillée et effrayante. Dans l'Apocalypse, au chapitre 19 et au verset 20, la deuxième partie du verset 20, « Ils furent tous deux jetés vifs dans l'étang de feu embrasé par le soufre. » Chapitre 20, verset 10, « Et le diable qui les avait égarés fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Et 21, verset 8, la fin du verset, leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Donc on voit, ce sont des versets solennels et qui nous font frémir. J'aimerais simplement, présent, par rapport à cet enfer, à cette réalité de l'enfer, juste apporter une petite remarque. Nous, dans nos petits villages, quand une personne décède, eh bien, nous connaissons toutes les personnes qui décèdent. Ça arrive que ce soit une personne âgée, handicapée, bien malade, qui décède. Et la famille vous dit, il est bien heureux. Comment est-ce qu'on réagit à il est bien heureux quand on ne sait pas si la personne est sauvée, qu'on peut avoir des sérieux doutes? C'est pas nous qui savons, c'est le Seigneur qui connaît ceux qui sont siens. Mais parfois, nous avons des sérieux doutes par rapport au salut de cette personne. Alors, que répondons-nous quand quelqu'un nous parle d'un proche décédé et qu'il nous dit qu'il est bien heureux? Et cela, je crois qu'on l'entend, vous l'entendez peut-être avec des parents de vos collègues, avec des parents de connaissances, des gens qui n'ont jamais fait preuve ou montré une quelconque foi, et on dit qu'ils sont bien heureux. Est-ce que nous tremblons et nous nous rendons compte de notre réalité, de notre responsabilité quand on nous dit cela? Une personne qui annonçait l'évangile à un homme entendit celui-ci lui répondre « En fait, selon vous, je suis sur un chemin qui mène droit à l'enfer. » Avait-il conscience de ce qu'était l'enfer? Est-ce qu'il rendait compte des paroles qu'il prononçait? Pour clore ce paragraphe sur l'enfer, je poserai cette question. Est-ce que nous sommes conscients que notre silence a des conséquences terribles pour ceux qui nous entourent. Je répète, est-ce que nous sommes conscients que notre silence a des conséquences terribles pour ceux qui nous entourent? Et ici, je parle autant pour moi que pour ceux à qui je m'adresse. L'amour du Christ nous étreint. Donc, c'est les versets 14 et 15. On peut peut-être juste les relire. Car l'amour du Christ nous étreint en ce que nous avons jugé ceci, que si un est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui pour eux est mort a été ressuscité. Donc nous avons ici la démonstration du salut offert à tous. On peut comparer ce tous ici au quiconque de Jean 3,16. Christ est mort pour tous. 1 Corinthiens 7,23 nous dit « Vous avez été achetés à prix ». Et 1 Timothée 2,6 « L'homme Christ Jésus s'est donné lui-même un rançon pour tous ». 1 Timothée 2,6. Donc la propitiation et l'offre est offerte à chacun, à l'intention de tous. Mais dans la suite, il est fait mention de ceux qui vivent, et non tous, hein, ceux qui vivent, puisque c'est ceux qui ont accepté ce salut, qui ont accepté cette substitution du Seigneur à notre place, qui vivent. Le salut est offert à tous, mais après pour vivre, il faut l'avoir accepté. Il est fait mention dans ce verset 14 de cet amour qui nous étreint. Une question par rapport à cela. Quand je prends dans mes bras ou étreins quelqu'un de cher que j'aime, je suis bouleversé. Est-ce que l'amour du Christ me bouleverse? Est-ce que l'amour du Christ me bouleverse? Nouvelle création. Nous connaissons le parcours terrestre de Jésus. Mais la relation que nous avons avec lui, vitale, intime et personnelle, est celle avec le Christ ressuscité. Nous ne sommes pas nous ne sommes pas une nouvelle créature, mais une nouvelle création. Toutes choses ont été faites nouvelles. Nous ne sommes plus en Adam, mais en Christ. Je cite 2 Pierre 1, verset 4. Les très grandes et précieuses promesses, afin que par elle vous participiez de la nature divine. Donc nous avons une nouvelle nature. Nous ne sommes pas de nouvelles créatures, mais de nouvelles créations, même si malheureusement nous ne manifestons souvent bien imparfaitement cette nouvelle nature. Ce qui implique que pratiquement, je devrais considérer ma sœur, mon frère, comme un racheté du Seigneur et un frère en Christ, avant de considérer sa vie sociale de tous les jours. Donc, nous avons changé d'optique. Nous ne devons plus voir nos frères et sœurs comme des personnes que nous côtoyons journellement dans une vie professionnelle, dans une vie familiale, mais de les voir comme enfants de Dieu, comme personnes pour qui le prix a été payé, qui ont coûté le même prix que moi au Seigneur Jésus. Par contre, si nous sommes une nouvelle création et que nous devons avoir ces lunettes spirituelles, je dirais, pour notre vie, cela n'empêche pas de respecter les rapports d'obéissance et de hiérarchie dans le milieu dans lequel nous vivons. Donc, une nouvelle création, voir les choses avec une vue spirituelle, ne plus vivre pour le matérialisme, pour les choses matérielles, pour les choses de la terre. Ces choses qui, de toute façon, un jour disparaîtront. Voilà, nous allons parler maintenant de la réconciliation. Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Premier constat, c'est Dieu qui réconcilie. Il donne cette offre à tous quand il est parlé du monde. C'est l'humanité, donc quand il est parlé du monde dans les versets 14 et 15, c'est l'humanité comme dans Jean 3,16. Ce n'est pas le monde dans lequel nous vivons, mais c'est l'humanité entière. Et c'est Dieu qui donne cette réconciliation, nous n'y pouvons rien faire. Étant ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. C'est Romains 5, verset 10. La réconciliation de Dieu est totale, puisqu'il ne nous impute pas nos fautes. Donc, rien ne nous est mis en compte par rapport à ce que nous avons fait de mal dans notre vie. Imputer veut dire mettre en compte. Elles ont été prises en charge. Et de cette réconciliation, elles ont été prises en charge par notre Sauveur et Seigneur. Et dans cette réconciliation, nous jouissons en plus de la douceur d'une intimité familiale. C'est la réconciliation de la part de Dieu qui a été faite dans le sang de la croix. Et nous abordons maintenant ce sujet dans le titre qui se rapporte au titre de ce soir. Donc, agent de réconciliation. La première chose pour être un agent de réconciliation, il est bien clair qu'il faut être soi-même réconcilié, avoir goûté cette réconciliation, la connaître. Je prendrai juste une petite image. Si je vous dis que ce plat qu'on vous sert, ce plat de viande ou de pâte, est très bon, eh bien, je dois l'avoir goûté pour le dire. Je dois le connaître, je dois l'avoir apprécié. Pour la réconciliation, c'est la même chose. Si on veut amener quelqu'un à la réconciliation, eh bien, il faut que cela soit clair de notre part, que nous la connaissons, que nous en jouissons. Agent de réconciliation. Si je dois réconcilier deux de mes petits-enfants, je vais faire preuve de diplomatie. Par exemple, si je dirais à l'un, s'il t'a poussé, c'est parce que tu lui as pris son jouet. Ou, peut-être dans d'autres occasions, toi tu es le plus grand, tu dois faire attention. On va parlementer jusqu'à ce qu'on trouve à faire la paix. Pour établir la paix entre deux pays belligérants, il y aura des concessions de part et d'autre, de multiples discussions et tractations. Certes, un pays va céder un bout de sa frontière, l'autre permettra d'importer certaines marchandises. Enfin, il y aura toute tractation et pendant de longtemps, avec plusieurs personnes, afin que la paix puisse être établie. Ça, c'est la réconciliation et cette paix qui n'est jamais garantie de la part des hommes. C'est une réconciliation que l'on peut faire à force de diplomatie, à force de concessions, et qui sont le fait de grandes discussions. La réconciliation avec Dieu, c'est « Il m'offre tout et je capitule, je n'ai que mon péché à apporter. Je ne vais pas pouvoir transiger avec Dieu, lui dire « Écoute, tu m'offres ton pardon, mais je veux garder ceci ou cela. Je n'ai pas à négocier, tout a été payé, Dieu m'offre tout, je n'ai qu'à accepter. » Et c'est peut-être aujourd'hui ce qui est souvent peut-être une barrière pour certaines personnes, parce que devoir tout accepter sans que la personne nous soit redevable de quelque chose, c'est un peu gênant et c'est un peu humiliant de savoir que tout a été fait, que l'on ne peut rien apporter. L'homme a cette tendance à vouloir toujours apporter quelque chose, être responsable en partie de quelque chose. Je répète cette phrase, la réconciliation avec Dieu, c'est « Il m'offre tout et je capitule, je n'ai que mon péché à apporter. » Donc, par rapport à cette réconciliation, ce qu'il faut dire aussi, que si nous sommes agents de réconciliation, eh bien, ce n'est pas nous qui allons offrir la réconciliation. Notre rôle à nous est de prendre les personnes par la main et de les accompagner jusqu'au pied de la croix, puisque la réconciliation est de la part de Dieu. Nous sommes, pour ainsi dire, comme des conducteurs, des accompagnants de ces personnes qui ont besoin de ce salut, pour les guider, les conduire et les amener au pied de la croix avec cet état, cette disposition du cœur pour accepter cette réconciliation de Dieu. Nous ne sommes pour rien dans la réconciliation, nous sommes des conducteurs, des guides pour amener ces personnes à la réconciliation. Donc, nous sommes donc ambassadeurs pour supplier les hommes d'être réconciliés avec Dieu. L'ambassadeur est le plus haut dignitaire d'un pays, dans un autre pays. C'est un rôle très important où il faut de la connaissance de son pays que l'on représente, mais aussi des us et coutumes du pays dans lequel il est en poste. Donc, pour être un bon ambassadeur, et ça c'est à la portée de chacun, si dans nos pays occidentaux ou dans d'autres pays, l'ambassadeur est une personne qui jouit d'une certaine formation, qui maîtrise plusieurs langues, qui a fait une école politique, qui a appris la diplomatie. Nous sommes tous ambassadeurs de Christ. Nous sommes tous capables, depuis le petit enfant de 7-8 ans qui a compris la croix jusqu'à la personne âgée, nous sommes tous ambassadeurs. Ce n'est pas une élite, c'est la responsabilité et le service de chacun d'être ambassadeur pour Christ, ambassadeur de réconciliation. Il faut connaître celui que l'on représente. Donc, on ne peut pas amener les gens à la croix si on n'a pas la connaissance de ce que cela veut dire, si on ne s'est pas nous-mêmes arrêté à cette croix et qu'on a un minimum de connaissance de l'amour du Seigneur Jésus, de son don, de l'amour de Dieu, de sa miséricorde, de tout ce qu'il a fait pour nous dans la personne du Seigneur Jésus. En passant aussi, soit dit en passant, les ambassadeurs sont des gens qui ont une certaine tenue. Ils ne disent et ne font pas n'importe quoi et surveillent leurs propos. Ça devrait être le rôle de chaque chrétien d'avoir une certaine tenue, de ne pas dire n'importe quoi et de surveiller ses propos. Que l'on ne se mélange pas aux gens du monde avec le langage du monde, même si on doit avoir un langage qui soit compréhensible, il n'y a pas de raison d'être méprisant, d'être sans politesse. Rappelons-nous qu'un ambassadeur est quelqu'un qui a de la classe, et c'est cette tenue, cette classe, cette sobriété que nous devrions avoir en tant qu'ambassadeur. Donc, je répète, nous sommes donc tous ambassadeurs, ce n'est pas réservé à une élite. Donc, je dois connaître celui qui veut réconcilier, soit connaître Dieu dans son amour, mais aussi dans sa sainteté et sa justice. Pas uniquement son amour, mais aussi sa sainteté et sa justice. On ne fait pas n'importe quoi devant Dieu et on ne s'approche pas devant lui sans révérence. Mais aussi, je dois connaître les besoins, mais aussi je dois connaître ceux qui ont besoin de cette réconciliation afin de pouvoir les aborder avec sagesse. Qui sont ceux qui ont besoin de réconciliation aujourd'hui, 3 mai 2020? On a des hommes qui n'ont plus qu'une très vague idée que Dieu existe, mais qui font très bien sans lui, ou qui sont contre les chrétiens. Je vous cite juste, suite à ces temps que l'on connaît aujourd'hui, d'un journaliste, un journaliste a écrit en comparant le COVID-19 à la peste de Camus, un livre qui a été écrit par Camus, où le clergé s'élevait contre cette peste et pensait que c'était une condamnation de Dieu. Donc, ce journaliste qui a été élevé jusque vers ses 15 ans, cite, dans un milieu chrétien, cite, « C'est une fatalité. Chaque épidémie connaît son lot de fondamentalistes chrétiens qu'il explique par une punition divine. » Donc, le mépris de Dieu et des chrétiens. Il y a d'autres qui pensent que l'homme est bon et qu'il n'a pas besoin de se reconnaître pécheur. Et tout particulièrement ces temps quand... Vous entendez toutes les réactions qui sont positives, c'est clair, je ne méprise pas ces choses-là, loin de moi. Mais quand on voit la solidarité qui s'établit entre personnes suite à ce confinement, des gens qui aident les autres, des gens qui font don d'une certaine partie de leur bien, on peut penser que tout d'un coup, que l'homme est bon, que l'homme finalement n'est pas si mauvais que ça parce qu'il est capable de bonté, il est capable de générosité. Et ce n'est pas cela qui va le sauver. Et puis, aussi, et il y en aura, je pense, passablement ces prochains mois, puisque les choses économiques seront difficiles, il y aura les écorchés de la vie, ceux qui sont désabusés, ceux qui sont sans espérance, ceux qui seront complètement désorientés. Donc là, c'est une liste qui n'est pas exhaustive, mais il y a quelques personnes de ceux auxquels nous sommes censés nous adresser comme agents de réconciliation. J'aimerais juste, par rapport à ces personnes, dire que je n'apporte aucun jugement. Et j'aimerais simplement souligner que parfois il est bon, nous qui avons été élevés dans des familles chrétiennes, de se poser la question, si je n'étais pas dans une famille chrétienne, où en serais-je aujourd'hui? Et on peut se poser la question aussi avec toute cette spiritualité qui a disparu, cette crainte de Dieu. Si une famille va bien, que les enfants vont bien, qu'il y a du travail, que tout fonctionne, qu'on a la santé, aujourd'hui, dans notre société, pourquoi est-ce qu'on va mêler Dieu à cela? Donc, ne pas amener du jugement sur ces personnes qui n'ont pas eu le privilège et la grâce de naître dans une famille chrétienne. Et pour cela, eh bien, nous devons toujours dire notre reconnaissance parce que nous avons connu ces choses dès notre jeunesse et Peut-être que nous les, peut-être parfois avons-nous eu quelques doutes ou remis quelque chose en question, mais le Seigneur a touché nos cœurs dès notre plus jeune âge où nous avons eu le privilège d'être enseignés dans ces choses. Et rappelons-nous que nous devons une éternelle reconnaissance pour ces choses. Voilà, est-ce que nous avons une connaissance de ce que sont et vivent ceux qui nous entourent? Ou sommes-nous bien confortablement installés dans notre ambassade à l'abri de tout? Il faut savoir que les ambassades, même en temps de guerre, sont protégées. Elles sont, si vous êtes dans une ambassade ou si vous êtes dans un pays étranger et qu'il y a des difficultés dans ce pays, vous pouvez vous réfugier dans une ambassade. Alors les chrétiens, nous avons le privilège d'être protégés. Nous pouvons être à l'abri du Seigneur. Et est-ce que nous allons vers ceux qui nous entourent? Est-ce que nous sortons de notre ambassade ou bien est-ce que nous restons bien confortablement installés dans celle-ci, à l'abri de tout ce qui se passe à l'extérieur et égoïstement? Le message de la réconciliation doit nous faire sortir de notre confort. Aller vers les autres, leur parler, les aider, les accompagner dans leurs doutes, leurs misères, faire preuve de compassion. Je dirais en deux mots pour simplifier, pour reprendre une expression populaire, si on veut être agent de réconciliation, il faut apprendre à mouiller sa chemise. Le Seigneur s'est impliqué sur la terre, tout particulièrement avec les malades, les nécessiteux, ceux qui avaient besoin de soins. Il n'est pas venu soigner ceux qui étaient en bonne santé. Donc le Seigneur a approché ces personnes misérables. Et nous parlons souvent de notre divin maître, de notre divin modèle, et bien souvent nous en sommes loin. Regardons également sa manière de les aborder. Qu'a-t-il dit à la Samaritaine? Est-ce qu'il l'a condamnée? Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, donne-moi à boire. Une manière d'établir le contact, de montrer à l'autre qu'il est quelqu'un qui compte, et non de le juger et de le casser. Est-ce que nous avons cette sagesse pour aborder les gens? Est-ce que nous avons ce savoir du Seigneur? Est-ce que nous avons cet amour du Seigneur dans nos cœurs pour les aborder de cette manière? Ou est-ce que nous y allons, excusez-moi l'expression, cracra, et nous faisons ainsi tout péricliter? Ensuite, le Seigneur ayant abordé les gens avec toute sa pédagogie, en guillemets, il arrivait à ce que la personne réalise son état. C'est l'exemple parlant de cette Samaritaine. Chacun pourra relire cette histoire. Et on voit combien le Seigneur savait accoster les gens, savait leur parler, savait les convaincre. C'est un exemple pour nous. Et souvent, eh bien, nous sommes loin de cet exemple. Nous lirons à présent un verset qui concerne Philippe. Comment aussi il a accosté l'eunuque dans Acte 8 au verset 29. Acte 8, verset 29. Et l'Esprit dit à Philippe, approche-toi et joins-toi à ce char. Et Philippe étant accouru, l'entendit qui lisait le prophète Ésaïe. Et il dit, mais comprends-tu ce que tu lis? Et il dit, comment donc le pourrais-je si quelqu'un ne me conduit? Et il pria Philippe de monter, de s'asseoir avec lui. Or, le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tombe. Ainsi, il n'ouvre point sa bouche. Dans son humiliation, son jugement a été ôté, et qui racontera sa génération, car sa vie est ôtée de la terre. Et l'eunuque répondant dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète dit-il cela? De lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Et Philippe, ouvrant sa bouche et commençant par cette écriture, lui annonça Jésus. J'aimerais simplement relever quelques expressions et voir cette manière de Philippe. D'abord, Philippe était à l'écoute, il était prêt à servir. Et l'Esprit dit à Philippe. Donc, on voit que Philippe était disposé, Philippe était prêt à servir et à suivre son Seigneur. Il lui donne cet ordre de s'approcher, de se joindre à ce char. Est-ce que Philippe va lambiner, va discuter, va donner une réponse dans laquelle il dira « Non, je n'ai pas le temps de m'occuper de cet homme, j'ai autre chose à faire. » Non. Et Philippe est un accouru, donc on voit qu'il s'empresse, qu'il accourt. Et il est attentif à ce que cet homme fait, puisqu'il entend qu'il lisait le prophète Ésaïe. Et il entre en contact avec lui en lui disant, mais comprends-tu ce que tu lis? Et on voit cet eunuque qui lui répond et qu'il ne comprend pas, qui demande à Philippe de s'asseoir avec lui. Philippe prend le temps de monter sur le char, de s'asseoir. Et on voit ensuite, à la fin de la lecture de ce passage, à cette question de l'eunuque à Philippe qui lui dit, de qui le prophète parle-t-il? Et Philippe, ouvrant sa bouche et commençant par cette écriture, lui annonce à Jésus. Donc, c'est ce que nous devons annoncer pour ce message de la réconciliation, celui qui en est le garant, celui qui en est l'auteur, le Seigneur Jésus. Cet exemple de Philippe est dans ces quelques mots qui nous sont cités, d'obéir, de venir accourir avec empressement, d'annoncer Jésus, est un excellent exemple pour nous apprendre à comment aborder les gens, comment être avec les gens et qui leur annoncer. La manière d'annoncer. 1 Pierre 3,15 nous dit de répondre avec douceur. Le chemin de la réconciliation, nous n'amenons pas les gens au chemin de la réconciliation par la force, par la menace. Il nous est dit avec douceur. Dans Colossiens 4,6, il nous est dit aussi que votre parole soit toujours dans un esprit de grâce, assaisonné de sel, afin que vous sachiez comment répondre à chacun. Donc, un esprit de grâce aussi. Douceur, esprit de grâce. Amener les gens à la croix ne se fait pas sous la contrainte et sous la menace. Elle se fait en parlant de Jésus et en le faisant avec douceur et avec grâce. C'est l'exemple de notre Sauveur que nous avons vu avec la femme samaritaine. Il s'approche d'elle, il lui demande quelque chose. Et ensuite, il lui parle en lui faisant rendre compte de ce qu'elle était. Le travail de réconciliation peut prendre du temps, de la patience, de la persévérance. Sommes-nous prêts à faire ces sacrifices, de prendre ce temps sur notre temps mignon? En effet, pour accompagner certaines personnes, peut-être certaines trouveront la réconciliation rapidement, pour d'autres, il faudra probablement plus de temps, de persévérance, et cela est pris sur notre temps. Est-ce que nous savons consacrer du temps aux autres ou est-ce que notre temps est trop précieux pour que nous l'accordions au Seigneur? Eh bien, que nous réfléchissions à ce temps que nous passons souvent dans des choses futiles alors que tant de personnes ne connaissent pas encore cette réconciliation. Prendre le temps pour amener les gens à la réconciliation. Voilà, nous sommes tous ambassadeurs en tout temps et tout lieu. Éphésiens 6, 18 nous dit, il est parlé de l'apôtre Paul et il dit, priant par toutes sortes de prières et de supplications en tout temps par l'Esprit, et veillant à cela avec toute persévérance et des supplications pour tous les saints, et pour moi, afin qu'il me soit donné de parler à bouche ouverte, pour donner à connaître avec hardiesse le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis un ambassadeur lié de chaîne, afin que j'use de hardiesse en lui comme je dois parler. L'apôtre Paul a connu beaucoup de contrariétés, il a connu des emprisonnements. Eh bien, je pense que dans chaque occasion où il s'est trouvé, il a su parler de cette réconciliation, de ce chemin qui mène à la croix. Et cet exemple de l'apôtre Paul est pour nous tous, que l'on soit dans des conditions favorables, que l'on soit dans des conditions moins favorables, eh bien, il y aura toujours l'occasion de témoigner, de parler de cette réconciliation offerte à tous. Et puis, ce service, comme tout service, demande aussi les prières de chacun. On voit que l'apôtre Paul se remet aux prières des saints. Eh bien, pour ce service-là, tout particulièrement aussi, il y a besoin des prières de nos frères et sœurs, il y a besoin des prières de l'Assemblée. Je le rappelle, nous sommes tous ambassadeurs, ce n'est pas réservé à une élite, que l'on soit un enfant pour parler à des enfants de son âge, que l'on soit un jeune pour parler à des jeunes, ou que l'on soit âgé ou très âgé, dans toutes les catégories d'âge de personnes que nous côtoyons, il y a des personnes qui ne connaissent encore pas cette réconciliation. Tous ambassadeurs en tout temps et en tout lieu. Le garant de la réconciliation, donc ça concerne ce verset 21 de ce chapitre, ce dernier verset, pour que cette réconciliation soit garantie, il a fallu que quelqu'un se porte garant. 1 Pierre 2,22 nous dit, citation d'Ésaïe 53, « Lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel il n'a pas été trouvé de fraude. 1 Jean 3:5. Il a été manifesté afin qu'il ôta nos péchés et il n'y a pas de péché en lui. Et c'est de celui-là qu'il est parlé, qu'il est dit, c'est celui-ci qui a été fait péché pour nous. Celui-ci qui a été fait péché pour nous. Dieu ayant, en Romains 8, verset 3, Dieu ayant envoyé son propre Fils en ressemblance de chair de péché et pour le péché, a condamné le péché dans la chair. Donc c'est le Seigneur Jésus qui est le garant de cette réconciliation, puisque cet obstacle, le péché qui empêchait cette réconciliation entre Dieu et nous-mêmes, il l'a pris en son corps sur le bois et il a expié ainsi nos fautes et nos péchés. Et il est le garant de cette réconciliation. Et le garant de notre réconciliation, eh bien, nous pouvons lui faire confiance puisqu'il n'est pas moins que le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus, notre Sauveur. On a parlé avant de réconciliation avec de la diplomatie, avec des gens qui vont transiger, qui vont demander des concessions. Ici, le prix complet a été payé, il n'y a rien ajouté. Il est le garant de la réconciliation. Nous sommes donc justice de Dieu en lui, puisque à la croix, Christ, par son sacrifice volontaire, a pleinement magnifié les attributs de Dieu, son amour, sa sainteté, sa justice. Alors Dieu, dans sa justice, ressuscite, glorifie et fait asseoir son Fils à sa droite. Et comme nous croyons, nous sommes identifiés à Christ par sa mort et sa résurrection, nous sommes en lui, donc justice de Dieu. Je finirai par une petite conclusion. Si nous avons toujours devant les yeux l'horreur de l'enfer et le désir que le minimum de personnes s'y retrouvent, et je pense qu'on a tous des personnes qui nous sont chères, que l'on connaît, des personnes que l'on côtoie, et nous sommes effrayés et nous sommes étreints de savoir que ces personnes n'ont pas encore confié leur vie à Christ, ne connaissent pas encore cette réconciliation, et combien cela doit nous presser à leur parler de cette réconciliation. Nous ne pouvons pas les forcer, c'est leur décision à elles, mais n'oublions jamais de toujours les amener au pied de cette croix. Et peut-être parfois que le chemin sera long, peut-être parfois qu'il sera difficile, peut-être parfois que pour d'autres, il n'y a aucune envie de prendre ce chemin pour s'arrêter à la croix. Mais si nous avons toujours devant nos yeux ces versets que nous avons lus par rapport à la colère de Dieu qui demeure sur ceux qui ont foulé aux pieds son Fils, la colère de Dieu pour ceux qui l'ont refusé, et puis cet enfer de tourment, cet enfer éternel de tourment, eh bien, combien peut-être notre zèle pour l'Évangile va se réveiller. Et puis aussi avoir toujours devant les yeux l'immensité de l'amour de Dieu pour nous. Toujours nous rappeler aussi que cet amour que Dieu a eu pour nous, eh bien, il est aussi pour les autres. L'amour de Dieu est suffisamment grand et suffisamment vaste pour tous les hommes. Cette immensité de l'amour que Dieu a eu pour moi, il peut amplement se partager avec tous les hommes, il y en aura toujours assez pour moi. De la compassion et de l'amour, si nous avons toujours de la compassion et de l'amour pour ceux qui sont autour de nous, sommes-nous capables de réagir comme les lépreux de 2 Rois 7, verset 9? Je cite, « Ils se dirent l'un à l'autre, nous ne faisons pas bien, ce jour est un jour de bonnes nouvelles et nous nous taisons. Si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, l'iniquité nous trouvera et maintenant venez et rapportons-le. » Pour lire tout le contexte, c'est 2 Rois 7, j'ai lu juste le verset 9. Donc on voit ces lépreux qui ont trouvé le camp désert et qui ont pu manger et trouver des biens et qui, au bout d'un moment, se disent « Mais nous avons à partager cette bonne nouvelle et nous nous taisons. » J'aimerais juste relever quelques expressions de ce passage. Ils se dirent l'un à l'autre. Donc, on voit que ce n'est pas comme quand les lépreux guéris de la lèpre, il n'y en a qu'un qui est revenu et les 9 autres ne sont pas venus dire leur reconnaissance. Là, ils se dirent l'un à l'autre. Ça veut dire qu'ils sont courage. Ils sont dans la même optique. Ils sont en communion les uns avec les autres pour se dire qu'ils ne font pas bien parce que ce jour est un jour de bonnes nouvelles. Donc, c'est tous ensemble qu'ils le font. Et puis, Après, c'est tous ensemble qu'ils disent, et maintenant, venez et rapportons-le. Donc, on voit, c'est tout l'ensemble, c'est l'ensemble de ce groupe de lépreux qui a réalisé que, en se parlant l'un à l'autre, que ce qu'ils faisaient n'était pas bien, qu'ils avaient à annoncer aux autres cette bonne nouvelle de cette armée qui avait été mise en déroute et que des provisions étaient de nouveau à disposition de chacun. Eh bien, dans le peuple de Dieu, que nous puissions nous encourager les uns les autres à nous dire, n'oublions pas d'annoncer cette bonne nouvelle à chacun, de le rapporter pour chacun. Nous avons à nous encourager, à nous stimuler dans ce message de l'Évangile, dans ce message de la réconciliation. Aujourd'hui, nous vivons un temps particulier. Je n'ai pas besoin de vous dire ce que c'est. Tout le monde, puisque nous ne nous voyons plus que par Internet, tout le monde sait exactement le temps que nous vivons. Eh bien, plusieurs personnes se posent des questions. Plusieurs personnes ont des doutes, certaines ont peur. Si ce virus continue, parce qu'on n'est peut-être pas encore dehors de l'histoire, eh bien, il y aura de plus en plus d'inquiétudes. Alors, est-ce que nous sommes capables d'apporter à ces personnes, pas les bonnes réponses, mais la bonne réponse, la réconciliation avec Dieu et jouir de ses soins de Père? Avez-vous déjà eu la joie de voir deux personnes se réconcilier? Je pense que probablement vous avez déjà vécu dans votre vie de personnes qui faisaient la paix, de les voir retrouver de la joie, de la communion ensemble. Eh bien, si c'est beau de voir deux personnes se réconcilier, combien c'est encore plus magnifique de voir une personne accepter la réconciliation avec Dieu. Je dirais combien il est beau de voir, encore plus beau, de voir une personne accepter la réconciliation avec Dieu. C'est notre responsabilité de conduire ces personnes sur ce chemin qui mène à la réconciliation, qui mène à la croix. Le chemin peut être long, il peut être difficile. Il y a toutes sortes de personnes à accompagner, mais la réponse est certaine pour chacun. La réconciliation se trouve à la croix, et si chacun s'y arrête, il trouve cette réconciliation sans condition. Et je rappelle aussi que si l'homme croit qu'il peut faire quelque chose pour cela, eh bien, il n'a aucune capacité à apporter quelque chose sinon son péché. C'est le magnifique don de Dieu pour tout homme de s'arrêter au pied de la croix et d'être réconcilié avec lui, et non seulement d'avoir la paix avec lui, mais de jouir de ses soins, de son amour, de sa tendresse. C'est ce message qu'il nous demande d'apporter en étant agent de réconciliation. Que le Seigneur nous accorde d'être des ambassadeurs fidèles. Merci de votre attention.